If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST. No.
Déjà, le drag est utile socialement, point. Puis, le drag est utile socialement parce que il permet de réfléchir. Enfin, c'est le drag, c'est de l'art. Donc, l'art permet, a toujours permis de pouvoir s'exprimer, pouvoir dire des choses et pouvoir faire réfléchir les gens. C'est, l'art a toujours été un puissant moyen de pouvoir discuter, de pouvoir critiquer. Ça permet de défier le genre, les codes, les habits et tout. Tu peux avoir une drag à barbe, tu peux être une drag queen qui est une femme. Il y a des drag kings aussi qui existent. Et voilà quoi, tu peux faire ce que tu veux parce que tu as envie de faire ce que tu veux. Et si les gens ils n'aiment pas, bah, s'ils n'aiment pas, ils ne s'aiment pas. Et tant pis pour eux.
Extimité, le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier.
Je m'appelle Pierre, j'ai 25 ans, je suis directeur adjoint dans un restaurant. J'ai 12 ans d'âge mental aussi. Je suis aussi drag queen connue sous le nom de Gazelle Von Leer. Quoi d'autre précisément, c'est créatrice de la Black Excellence. Grand flemmard et aussi... Gazé venir sur Instagram, voilà.
Est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance
Mon enfance, de ce que j'en souviens déjà, parce que j'ai quand même une bonne mémoire de merde. Je suis né en Côte d'Ivoire, dans une ville qui s'appelle Divo, mais j'ai grandi à Trècheville. L'adresse exacte, c'est Avenue 10, rue 25. Je me rappelle de ce genre de petits détails, mais au final... Parfois, ça sert pas à grand chose. C'est un petit appartement, petit appartement, ça va, il allait, parce qu'on était beaucoup dans la maison. J'habitais en fait avec ma tante, que j'ai cru être ma mère pendant beaucoup d'années, ce qui est assez fucked up. J'ai vécu avec ma tante, mes cousines et mes cousins. À ce moment-là, je ne savais pas où était ma mère, enfin. Pour moi, ma mère, c'était ma tante, et ma cousine, c'est ma sœur. On a été enlevés comme ça, surtout qu'en Afrique, parfois, la tante, tu peux dire maman, etc. Donc, moi, c'était maman, quoi. J'ai vécu là-bas jusqu'à sûrement, quoi. Quand j'avais 4-5 ans, peut-être. Parce qu'après, je suis venu en France, à Sevran, j'habitais. Quand j'étais venu en France, il y avait ma mère, mon grand frère, qui était déjà en France. Et il y avait aussi mes deux petits frères. Mon petit frère venait de naître. Et après, mon autre petit frère est né et tout. Ça fait qu'il y avait le père de mes petits frères. Je dis ça comme ça parce que, voilà, je me souviens juste. En fait, je me souviens pas exactement en fait quand mon petit frère est né. Je me souviens juste de là, j'étais à Trècheville en Côte d'Ivoire et boum, je suis à Sevran en France. Et il y a déjà mes deux petits frères qui sont nés dans une maison sympathique à Sevran Bedotte. Apparemment, à côté, nos voisins c'était les parents de Thierry Henry, le footballeur. Ok, pourquoi pas. Je me souviens aussi que on habitait pas loin d'une cité, donc parfois on jouait avec des jeunes et tout. Et je me souviens qu'en automne, quand il y avait les fruits à coque qui tombent des arbres qui sont pointus là, parfois on se balançait ça dessus, tout simplement. Après ce vent, je suis venu à Villejuif où j'habite encore. Et là, je disais 4-5 ans parce que quand je suis arrivé à Villejuif, je devais entrer en classe de CP. Le directeur m'a, parce que j'étais petit, très petit et tout, très petit, je faisais très très bébé. Le directeur voulait me mettre plutôt en grande section de maternelle, puisque vu ma taille et mon faciès. Mais ma mère disait que je savais déjà lire et écrire et tout. Ce qui est vrai parce qu'en Côte d'Ivoire, je me souviens que j'allais à l'école. Je partais moi-même tout seul à pied à l'école. J'avais déjà appris à lire et écrire, donc ouais, voilà, je savais déjà faire ça. Ma mère a dit au directeur, passez le journal, il va lire et tout. Donc j'ai pris le journal, j'ai lu tranquillement, enfin... Normal, pour moi, c'était tranquille. Après, j'ai écrit des trucs. Après, on m'a dit, ouais, ça a rien dit en CP, donc je suis passé directement en CE1. J'avais 5 ans, j'étais en CE1. Mon enfance était assez tranquille, pas vraiment de problème. J'étais un peu le gamin qui voulait aller à l'école parce qu'il avait tous ses amis là-bas. J'aime lire, je jouais pas vraiment aux jeux vidéo. Enfin, à part que j'allais chez des potes. Je regardais beaucoup la télé, tous les dessins animés qui passaient. Je les connaissais, de toute façon je continue encore de regarder les dessins animés.
Du coup quand t'arrives à Villejuif, donc tu découvres ta mère, enfin tu fais la rencontre de ta vraie maman, comment tu fais face à ça en fait? Est-ce que tu t'en souviens?
Je me souviens surtout en fait que que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, en fait, c'était un peu, enfin, on avait déjà entendu parler de personnes qui partent en France pour avoir un meilleur futur, etc., etc. et tout. Moi, j'ai pensé que c'était à peu près comme ça, puisque je me souviens que quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais ma mère, enfin, pour moi, ma tante, c'était ma mère avec ma sœur. Donc, j'ai vécu avec elle, surtout qu'elle prenait grand soin de moi, parce que vu que j'étais plus grand que sa fille, entre guillemets, j'étais son premier enfant, quoi. Celle qui me disait, celle qui m'a dit que ouais, mes premiers mots c'était j'ai faim, enfin, ce qui résume pas mal ma vie à toute époque. Et oui, quand je suis arrivé en France, j'étais un peu en mode oui, je suis là dans la maison d'autrui, c'est la famille quand même. Et ce qui se passe, c'est que j'ai pas connu mon père, parce que j'ai appris plus tard que j'avais 14-15 ans qu'il était mort quand j'étais très très jeune, donc j'ai jamais connu. J'ai toujours vécu sans père, donc pour moi, il n'existe pas, c'est pas la mort, enfin on s'en fout, il est pas là quoi. Et après, il y avait aussi, entre guillemets, ce père de substitution qui était le mari de ma tante. Oui, non, j'appelais plutôt tonton parce que c'était tonton qui peut aider tout le monde, guider tout le monde,
Proche.
sage, voilà, sage. Un peu comme Dokiriku, le grand-père, le vieux qui a toutes les connaissances, oui, là c'est plutôt un tonton, enfin bon. Voilà. Et j'étais dans une maison d'autrui à Sevran. Enfin, il y avait un grand frère pour moi qui était mon cousin, une mère qui était ma tante, et aussi le père de mes deux petits frères. Donc j'étais un peu dans un endroit, dans un autre monde, parce que je connaissais pas vraiment les gens. Je suis toujours assez timide quand même. Donc j'étais un peu dans mon coin à lire, à l'école, faire mon travail, enfin, un petit tout tranquille quoi. Découvrir sa mère, c'était un peu en mode, c'est pas ma mère, c'est ma tante et tout. C'est vraiment que quand j'étais vers le primaire, fin de primaire et tout, on disait que c'était ma mère, j'étais en mode non, non c'est fou, tu mens, enfin voilà. Puis ensuite, j'ai fini par l'accepter, mais on n'a pas vraiment eu de relation, elle et moi, donc c'est ma mère parce que je sais que c'est ma mère biologique, et voilà, mais c'est peut-être, je sais pas, con ou méchant de dire, mais parfois, je la sens plus comme ma génitrice et on n'a pas vraiment de lien et c'est assez comme ça tout le temps et ça continue comme ça enfin.
Jusqu'à présent.
Oui, jusqu'à présent en fait je vis encore chez ma mère avec mes frères et tout mais déjà je travaille beaucoup donc je pars tôt parfois et je rentre tard parce que soit je vais boire, soit je rentre chez quelqu'un, j'ai des potes etc. Et quand je rentre ils dorment parce que je peux finir tard au restaurant et on se voit pas beaucoup et on n'avait jamais vraiment eu de connexion, de lien, de centre d'intérêt commun. La dernière conversation avec ma mère qu'on a eue, c'était à propos d'argent. 9 conversations sur 10, c'était à propos d'argent. Et la dixième, c'est moi qui suis traité comme le geek, l'informaticien, l'ingénieur qui va réparer la box juste en débranchant, rebranchant ou en faisant on-off.
C'est un enfant qui a sauté une classe. Est-ce que c'était quelque chose qui était valorisé dans ta famille?
Pas mal de familles noires ou d'Afrique valorisent les études en disant que c'est entre guillemets le moyen de s'émanciper et d'être à l'égal des blancs. Et moi j'étais bon à l'école, mais ma mère ne s'occupait pas vraiment en fait de ce que je faisais à l'école. En mode c'est pas en mode du moment qu'il n'y avait pas de problème, que le professeur n'appelait pas pour dire qu'il y a un problème et tout, elle voyait pas. Donc elle savait pas que 90% de mon temps en classe c'était juste parler, bavarder et rien foutre. Mais après j'ai des facilités d'écoute et d'apprentissage, donc j'apprenais assez facilement et c'était assez entre guillemets simple. Surtout que l'école que j'avais fait en Côte d'Ivoire était entre guillemets plus difficile. Les études sont beaucoup valorisées dans ma famille, mais petite anecdote assez fun, quand j'ai eu mon bac, qui était une journée de merde en soi, parce que c'était en juillet, début juillet, il y avait la Japan Expo. Je devais y aller, j'avais mon passe 4 jours, je devais y aller, et là, en plein milieu de la Japan Expo, il faut que je me lève beaucoup plus tôt pour aller à je ne sais où pour voir les résultats du bac, qui m'avait complètement saoulé, j'en avais absolument rien à faire. J'étais juste blasé de la vie, donc j'y vais, j'ai mes résultats, je vois que j'ai eu, je suis content. J'ai eu à genre 10-30, tout du genre, j'en ai rien à foutre, je voulais juste l'avoir et je me barrais. Parce que mon but était juste, j'ai mes résultats et je me barre à la Japan Expo. Mais quand j'ai eu mon bac, elle m'avait appelé, enfin je crois qu'elle avait regardé sur internet, en voyant mon nom pour voir sur les listes, pour voir que je l'ai eu. Mais d'accord. Là, je vois ma tante m'appelle, me dit oui, félicitations et tout pour ton bac S et tout. J'étais là en mode, what? Ton bac S avec mention très bien et tout. J'étais en mode, oh waouh! J'ai fait un bac L parce que je déteste complètement les sciences et tout. Et donc, j'ai fait un bac L où j'ai eu 4 en littérature, 4 en allemand alors que j'adore l'allemand. Mais oui, mais ma tante m'appelle avec le bac S, bon, on sort très bien, je suis en mode what the fuck. Donc j'ai joué le jeu, j'ai fait genre oui, un peu évasif, en mode oui, merci. Ah, tu vas devenir médecin et tout. Ouais, tout à fait, non, bye. Et ouais, mais après j'ai appris que c'était ma mère qui avait dit ça, j'étais en mode enfin, pourquoi? Sachant qu'elle savait pertinemment que. Le boulot que je vais faire, c'est être professeur des écoles, parce que c'était avec ça que j'avais envie de faire. Voilà, elle le savait, mais je pense qu'elle n'a jamais accepté parce que généralement, ils ont plutôt envie que tu sois médecin, avocat, que tu travailles dans un aéroport, parce que dans tous les cas, en fait, tu peux avoir des réductions, des avantages, etc. Prof, je pourrais éduquer les enfants, mais ils s'en foutent, quoi. Enfin, ça les aide pas, quoi. Donc, ouais, non, j'étais un enfant studieux jusqu'au fin primaire. Après, au collège, bah, je ne foutais rien. Ce qu'on dit, c'est que je faisais mes bêtises en sous-marin. C'est-à-dire, je faisais les bêtises, mais ça passait jamais au radar de ma mère et tout. Donc, voilà. Et quand j'étais plus grand, j'avais la clé des boîtes aux lettres. Donc, au lycée, s'il y avait des lettres qui disaient que j'étais pas en cours, je subtilisais ça.
Et t'es aussi un enfant qui a l'air d'avoir beaucoup aimé s'évader avec les jeux vidéo, les animés, les mangas et la Japan Expo. Et d'où est-ce que ça devient ce goût? Est-ce que tu te rappelles depuis quand ça te passionne et pourquoi?
Je me souviendrai pas de quand ça a commencé. Je sais juste que j'ai toujours apprécier regarder la télé, les dessins animés. Ça passe de Pokémon au Winx Club, en passant par Totally Spies, Martin Mystère. Toujours aimé m'évader parce que j'adorais lire les BD, les mangas et tout. Et après, c'est venu au fur et à mesure assez naturellement, quoi. Après les jeux vidéo, bah, j'ai découvert. Après, je jouais surtout chez mes potes.
Quand tu arrives en France, j'aime pas ce mot-là, mais disons que ça coule de source, tu es intégré parce que tu es jeune et que tu grandis en France. Est-ce que y a cette différence qui est marquée entre l'extérieur et l'intérieur quand tu rentres chez toi, au niveau culturel, au niveau de la langue, par exemple? Est-ce que tu as ce besoin de comparaison entre la Côte d'Ivoire et la France, culturellement?
Enfin, j'étais jeune, donc j'avais pas vraiment de lien. Et c'était aussi parce que quand j'étais à la maison, bah, quand on était à Villejuif, il y avait ma mère et peu de genre de personne qui va accueillir tout le monde, même si t'as pas les moyens, même si c'est difficile, et va pas vraiment dire non. Donc il y avait un peu cette même vibe qu'il y avait quand on était en Côte d'Ivoire, genre beaucoup de personnes à la maison. La différence qu'il peut y avoir entre l'extérieur et l'intérieur, c'est que en Côte d'Ivoire, on parle français, mais après, il y a des dialectes aussi. Et selon les ethnies, il y a différents dialectes et tout. Moi, je suis Apollo. Par exemple, le père de mon petit frère est Guéré. Et ce qui se passe, c'est que bah, ça parle Apollo chez moi. Je connais pas vraiment de mots. Je connais surtout des insultes et des mots tout cons parce que c'est ce qu'on me disait parfois, genre va te laver, va manger, viens manger et va te coucher, quoi. Donc, je connaissais ce genre de mots, mais moi, je ne parle pas. Ma mère, quand elle parle à mon frère ou mes frères ou moi, elle parle en français, c'est surtout quand elle parle avec ses sœurs, de la famille, et parfois elle parle dans la langue. Et ouais, il n'y a pas vraiment de différence, surtout que ma mère, ça fait un petit bout de temps qu'elle était en France et tout, mais elle était un peu encore dans cette période où elle devait assimiler les pratiques, enfin, assimiler le fait d'être en France et d'être entre guillemets française pour pouvoir s'intégrer et avancer, quoi. C'est pour ça aussi que bah, ils sont contents qu'on aille à l'école, etc., qu'on aille loin et tout. Et après, vu que j'étais jeune, bah, j'ai pris assez facilement. Parfois, c'est assez chiant parce que ça revient au moment où tu t'y attends le moins. Parce que parfois, il te ramène au fait que oui, bah, t'es pas blanc, t'es noir, et enfin, t'es français juste parce que t'as la nationalité, mais quand même noir, t'es quand même ivoirien. Parce que parfois, on me dit que j'agis comme un blanc parce que, genre, je parle bien et tout. Il y a un mot qui dit le choco parce que je parlais de manière articulée, de bien articulée, parce que je disais des mots que parfois ils connaissaient pas. Mais ils disaient en mode ouais, tu fais trop le bon avec ton chocolat. Et quand ils imitaient le fait de bien parler, c'était en mode bonjour, moi je m'appelle Francis. Tu vois, enfin, genre une manière accentuée, alors que de base ils vont parler comme moi, ils vont parler comme ça, mais ils vont dire oui, bonjour, oui, je voudrais un boulot, je m'appelle comme ça, et voilà. Et c'est genre prendre leur voix, entre guillemets, de blanc, faire le choco, oh, tu chocotes trop bien et tout, et ça. Non, c'est juste, tu parles, tu articules, enfin, c'est pas assimiler une culture, non, c'est juste bien parler parce que c'est comme ça qu'on peut te comprendre. Donc, ouais. Et on me dit que parfois je fais trop le blanc, tout ça, parce que par exemple, je vais pas aimer des musiques de Côte d'Ivoire, ou juste parce que je vais lire des livres ou dire des mots, entre guillemets, intelligents. Enfin, je suis en mode. Ou parce que je vais aussi regarder des mangas et c'est pas trop leur truc. Je me souviens, j'étais parti il y a quelques années, là, j'étais parti à le mariage de mon cousin. J'avais évité pendant 2-3 ans toute relation avec mes cousins, etc., parce qu'ils me cassaient les couilles et c'était chiant d'être avec eux. Et surtout parce que dans les fêtes de famille, j'aurais été en mode, ouais, bah, je suis dans mon coin, j'ai pas vraiment grand chose à leur dire, et ça sert à rien juste être dans mon coin et boire de l'alcool et rien faire, quoi. Et je me souviens, j'étais parti au mariage de mon cousin parce que son cousin, je me suis dit, vas-y, je vais le faire pour lui et tout. Et là, je revois un oncle que j'ai pas vu depuis bien longtemps, et bah, j'aurais pu me passer de le voir parce qu'il est là en mode ouais, ça va bien et tout, tu seras toujours avec les Kamura. Et il me dit ça parce qu'en fait, il sait que j'aime bien la culture japonaise, je regarde les mangas et tout. Son lien, c'était j'aime bien la culture japonaise, donc. Il disait oui, tu te toujours dans les boîtes avec les Chinois et tout, les Nakamura. J'étais en mode ouais. Et 10 minutes plus tard, je me suis barré de la soirée. J'étais resté quoi, 30 minutes au max. Mais ouais, voici ma relation avec mes cousins, ma famille.
J'ai une question qui peut sembler un peu tirée par les cheveux, mais ça vient aussi de ma propre expérience. Quand j'étais au lycée, j'étais au club Japon, et il y avait une surreprésentation de personnes racisées. Et je vois aussi que t'es assez intéressé par les cultures asiatiques en général, et les japonaises en particulier. Après, c'est aussi une génération qui était fan de manga, enfin, toute une génération, je pense qu'on a tous connu ça. Mais il y avait beaucoup de personnes racisées dans mon club Japon. Et ma question, c'était de savoir, est-ce que tu crois que ton amour pour les cultures asiatiques et le Japon, c'était pas aussi parce que c'était une culture tiers, ni blanche ni noire, qui te permettait de t'évader sans te poser de questions raciales?
C'est une très bonne question, et à cela je réponds, j'en sais absolument rien. ce qui était, ouais, comme tu as dit, c'était on était de notre génération qui avait été exposée au manga et tout. Parce que juste avant, c'était la génération d'avant, c'était avec le club Dorothée. Moi, c'était à l'époque où c'est là, il y avait Dragon Ball, après il y avait d'autres qui ont continué et tout. Ouais, j'ai grandi avec ça, donc c'est ce qui est resté ancré. Et voilà, je pense que c'est surtout parce que c'est la chose in à ce moment-là, quoi.
Et j'ai aussi l'impression, toujours aussi tiré par les cheveux avec mes questions, mais que les cultures asiatiques et le Japon peut-être en particulier, en tout cas les produits dérivés qu'on reçoit jusqu'en France, comme les mangas et tout, il y a beaucoup plus de place pour des personnages queer et, ou ambigus sur leur identité de genre et leur identité sexuelle. Et toi, comment tu t'entendais avec ton identité de genre?
Franchement, au niveau sexualité, identité personnelle, c'est assez simple. Ça n'existait pas avant la fin de la troisième. Pour faire simple, j'étais juste... si je pouvais me définir quand j'étais au primaire et tout... Enfin, en primaire, j'avais une amoureuse qui s'appelait Mélanie D'Acosta. C'était mon amoureuse. Maintenant, c'est plus mon amoureuse. Voilà. Et au collège, j'avais aussi... je suis sorti avec une fille pendant quoi, quelques mois. Enfin, vite fait, Wendy. Le gros maximum qu'on ait fait, c'était Smack, quoi. Fin de troisième, bah, j'avais remarqué que que des garçons m'attiraient, mais après je m'en foutais parce que j'étais plutôt occupé à jouer à la récréation et tout. Mais à un moment, il y avait un garçon qui était passé. Je me souviens très clairement de la scène, c'était assez drôle. J'étais dans la cour et il y avait des petits escaliers pour aller vers le préau et vers l'administration et tout. Et j'étais avec une pote debout comme ça, tranquille, et je voyais un garçon qui est passé, il avait de belles fesses, donc moi je commençais à. Ça m'excitait et tout. Et donc j'ai dit à ma pote, ouais, je crois que je suis gay. Elle me dit, ah, pourquoi? Ouais, j'arrête pas de regarder les fesses de mecs et ça m'excite et tout. Genre, je bande et tout. Après, elle dit, ah, ok. Et c'est tout. Elle avait absolument rien à foutre. On s'en foutait complètement. Puis après, ensuite, il y avait rien. Genre, je pouvais être attiré par des garçons et tout, mais c'était pas vraiment ce que j'avais en tête et tout. Jusqu'à ce que je sois fin de terminale. Et là, je commence à rencontrer des garçons. Je commence à coucher avec des garçons. Et c'est là vraiment que, on va dire, j'ai découvert ma sexualité, j'ai découvert le fait que je suis gay. Parce que j'avais des amis assez tolérants, donc c'est fun, c'était en mode « Ouais, t'es gay ? Ouais. Ok, moi, ouais, je m'en fous. Ouais. Bon, bref, t'as regardé l'épisode hier soir, enfin, genre les choses, quoi. »
Ouais, ça n'a jamais été un big deal pour toi ni tes potes, mais et pour ta famille, est-ce que c'est un truc dont t'as parlé ?
Ah, ça c'est fun avec ma fille. Parce que déjà parce qu'on se parle pas vraiment avec ma famille, donc j'ai jamais fait de coming out et j'étais je fais partie de ces personnes qui sont un peu en mode partisan du non coming out, en mode non pas parce que je dis que c'est inutile, juste mais c'est surtout parce que j'ai jamais vraiment caché. Quand tu rentres dans ma chambre, à un moment t'avais un poster de mec presque à poil dans ma chambre qui était accroché. Quand tu rentres dans la chambre, tu ouvres les yeux et tu te dis ah bah en fait ouais, les gays quoi. Bah ma mère sait que je suis gay parce que un jour c'était une cousine éloignée qui l'avait su enfin qui était venue me parler sur Facebook en mode c'est pas bien que tu sois gay et tout tu vas aller en enfer, il faudrait que t'arrêtes ça, tu vas porter le malheur sur ta famille et tout blablabla, il faut que t'ailles prier et tout. J'étais en mode ouais, mais sauf que en fait à ce moment-là c'est au moment où on avait eu des problèmes d'argent, risque d'expulsion à la maison, donc c'était un peu le moment où j'avais pas vraiment envie de comme casser couilles puisque le but c'est de trouver de l'argent et tout. Et là j'étais en mode ouais, non. Au début, je voulais parler avec elle en mode du sarcasme et tout, mais elle était tellement conne qu'elle comprenait pas. Donc, à un moment, je lui ai juste dit, vas-y, ferme ta gueule et casse-toi, quoi. Je l'ai bloqué, etc. Elle a dit, oui, elle va parler à ma mère, etc. Donc, vas-y, fais ce que tu veux, rien à foutre. Et j'ai su que ma mère l'a su parce que ma cousine a intercepté un appel de ma tante et ma mère en mode, il y a l'autre là, l'autre conne, on va l'appeler, il y a quelques prénoms de merde que j'aime pas, on va l'appeler Sandra. Il y avait Sandra qui avait balance à ma cousine, à ma tante, lui là que j'étais gay et tout, donc ma tante avait appelé ma mère pour parler et tout. Bah ma cousine avait intercepté l'appel, elle avait entendu et me l'a dit. Mais ma mère agit comme pas mal de mères en Afrique, c'est-à-dire quand il y a un problème familial, du moment que l'extérieur ne le sait pas, il n'y a pas de problème. On va se présenter de manière très propre, très clean, regarder les gens avec un grand sourire. Mais même si quand on rentre à la maison, bah, on se fight, devant les gens, on va faire, on est unis. Ce qui est une très bonne stratégie, mais qui est quand même assez foireux parce que concrètement, elle fait pas face aux choses parce qu'elle m'en a jamais parlé, elle m'en parlera jamais, même si elle le sait. Et voilà, c'est comme ça que ma mère sait. Mon grand frère l'a su parce que une ancienne amie avait travaillé avec lui dans le McDo et bah balancé comme ça parce que vu que j'étais très ouvert sur ça, je m'en foutais. Elle pensait aussi que tout le monde le savait. Après, vu que je parlais pas de ma fille, elle pouvait pas savoir. Donc elle a dit et tout. Après, mon frère était venu me parler et tout. Je me souviens de la scène aussi parce que ça m'a cassé les couilles. J'étais en train de jouer sur mon ordi et on peut pas faire pause en ligne. Donc lui, il vient me parler. Donc j'étais en mode tu peux pas me parler après parce que j'étais en train de finir ma game et tout tranquillement et tout. Et il faisait des phrases en mode oui, en fait, il y a un truc qui m'a dit qu'en fait, t'étais peut-être. J'ai deviné de qui il parlait, donc je finissais ces phrases gay, ouais. Je continue à jouer, clac, 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 clac. Apparemment, tu es gay, ouais, clac, 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 clac. J'aime les hommes, ouais, clac, 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 clac. Enfin, genre de choses. J'ai un copain? Non, non, j'ai pas de copain, clac, clac, clac. Enfin, voilà, c'était assez con. Ça aussi que c'est cool parce qu'il était en mode, ouais, bah, en gros, ils sont fous, tu fais ce que tu veux, mais faut pas que trop de gens le sachent, de la famille et tout. Faut pas que je ramène des garçons à la maison et tout. Et en fait, ce point-là, parce que les gens de la famille le sachent, je n'ai absolument rien à foutre puisque j'en parle pas de toute façon. Mais le point où je disais oui, il doit ramener une personne à la maison et tout, mais énervé parce qu'il était parce que lui de toutes les personnes que je connais, c'était celui qui faisait limite des bésodromes à la maison avec mes cousins quand ma mère n'était pas là et ils invitaient des filles et tout, ils faisaient des conneries et tout. Et il ose me dire à moi de ne pas ramener quelqu'un. Bah j'ai pas écouté, j'avais ramené des garçons, j'avais couché avec des garçons et voilà quoi, enfin dans la maison, dans ma chambre tranquillement parce que j'avais ma chambre. Et ouais, donc c'est comme ça que ma famille sait que je suis gay. Maintenant, bah, mes petits frères aussi le savent, puisque bon, moi je le cache pas vraiment. Ils m'ont déjà vu en drague, enfin, ils m'ont déjà vu en drague quand je suis sorti de la maison en drague. C'était dimanche, dragathon, j'étais parti de chez moi en drague, parce que j'ai pas que ça foutre de. Parce que d'habitude, quand je fais ma soirée au Flams, je me maquille directement là-bas, puisque je suis avec les autres, on se maquille et tout. Mais là, je me suis maquillé chez moi, je suis parti. Ma mère, le lendemain, m'avait dit ouais, apparemment, il y a des gens qui t'ont vu que t'étais maquillé, c'est quoi que tu faisais et tout. Je dis ouais, je drague et tout, faudrait peut-être éviter parce que. Tes frères, ils sont confus, etc. Et les amis qui leur ont parlé, tout. J'étais en mode, ouais, bah, leurs amis, s'ils veulent parler, ils parlent. Enfin, moi, j'en ai absolument rien à foutre. Et si mes petits frères sont confus, bah, qu'ils viennent me parler. Ils sont bien, ça leur va bien quand ils ont besoin de demander des capotes ou demander de l'argent et tout ça. Mais quand c'est pour parler normalement, ils ferment leur gueule, là. Quand tu vois ton fils qui est plus jeune que moi, qui n'a pas de travail, rentrer avec des nouvelles chaussures, flambant neuf, Balenciaga ou d'autres en plus. Plus que c'est drôle parce qu'ils ont absolument pas de style. Ces gens, les mecs de cité qui ont des Balenciaga super cool, super fun et tout. Mais qui ont leur survêt, etc. Enfin bref, dégueulasse. Ah, disgusting. Et genre, ça l'étonne pas que le mec, chaque deux jours, il a une nouvelle doudou, ce genre de choses et tout. Il y a plein de boîtes de chaussures, etc. Il a pas de boulot, etc. Non, ça dérange pas. Là, elle dit rien. Mais quand moi, je me maquille pour aller quelque part, ou en plus, je peux me faire de l'argent grâce à ça et tout, c'est en mode ouais, non, c'est pas bien, etc. Enfin. Ouais, en plus c'était un matin, j'étais fatigué, j'étais en mode ouais, non, ils peuvent parler s'ils veulent, j'en ai absolument rien à faire. Bah, je suis retourné dans ma chambre tranquillement.
Et en parlant de drague, quand est-ce que. Anthony, t'as posé la question par rapport à ton genre, t'as plutôt parlé du rapport à ta sexualité. Quand est-ce que tu as eu l'envie, tout simplement, de te maquiller, d'être gazelle?
L'envie est venue à la période Tumblr, à l'époque. Je pense que c'est quand il y avait les premières saisons de RuPaul, je crois que maximum la 4. L'époque Tumblr, c'est genre, tu vois des gifs sur Tumblr, ça a l'air fun, donc tu recherches, tu vois, ça vient d'où. Donc j'ai vu des gifs de Drag Queen et tout, j'avais trouvé l'émission, j'avais trouvé fun, j'avais regardé et tout. Puis ensuite, j'avais juste vu comme ça de temps à autre, même sur Facebook après, etc. Mais je ne savais pas, pour moi c'était aux États-Unis, que aux États-Unis où il y avait des Drag Queen. Je ne savais pas qu'il y en avait en France, parce que je ne sortais pas du tout à l'époque. Enfin, je sortais, mais genre, c'était des soirées que chez des amis dans un appartement et tout, donc on était qu'entre nous. C'était quoi, il y a 2 ans, du coup, où j'ai rencontré Veronica Von Leer un jour après un bowl de voguing où j'avais participé. Et en fait, j'avais un ami, Jean-Rémy, qui connaissait Veronica. Et donc, après le bowl, on est parti boire un petit coup. Après, on parlait. Veronica, en fait, c'est une drag queen. Donc, c'est cool et tout. Voilà, c'est la première fois que j'ai rencontré une drag queen. Et donc, c'est un peu la première fois que je voyais qu'il y avait des drag queens en France. Et c'est ce qui m'a ouvert la porte au fait qu'il y ait des drag queens sur Paris. Et voilà, j'ai gardé des contacts avec Veronica. L'envie de maquiller a toujours été là, en mode, parce que j'ai déjà, entre guillemets, été entre guillemets en drag un jour à mon anniversaire, parce que j'adore faire des performances, donc j'ai mis une wig, une robe, des talons, et j'avais fait une petite performance chez moi pour mon anniversaire devant les gens et tout, c'est assez fun. Et donc voilà, j'avais fait entre guillemets du semi-drag et tout, je n'étais pas maquillé, mais je me disais, un jour j'allais faire le full geek, quoi, genre tout le maquillage, perruque, etc. et tout. Et le 1er février 2018, j'ai fait ma première performance, parce que j'étais avec mon asso étudiante LGBT, on avait organisé une soirée sur le thème drag, et on avait invité Jésus la Vidange et Enza Fragola pour venir performer. Et vu qu'on a organisé une soirée drag, on s'est dit, ouais, pourquoi pas les gens de l'asso qui organisent la soirée, bah, fassent une performance. Et bien sûr, puisque c'était moi responsable convivialité, c'est moi qui coordonnais en fait la soirée dans mon asso, parce qu'on était 3 assos à participer, bah, j'étais en mode, dans l'asso, ce sera moi qui vais participer, qui vais performer, parce que c'est soit ça, soit je sabote la soirée. Il y avait pas d'autre solution, parce que bon, j'étais là de A à Z de la création du truc et de la soirée, donc c'est soit moi, soit personne. Donc j'ai performé du coup, et j'avais demandé à Veronica de maquiller, puisque c'était la seule drag queen que je connaissais, avec qui j'étais ami, donc Veronica m'a maquillé. Bah, ce soir-là, Gazelle était née. Le nom Gazelle vient de... Il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de recherché, c'est juste de Kingsman 1. Il y avait l'assistante du méchant qui s'appelle Gazelle. Celle avec à la place des jambes, parce qu'elle n'avait pas de jambes, à la place des jambes, c'était des lames. Et elle se baladait comme ça, genre ça faisait un peu genre comme si t'avais des talons, mais en fait c'est des lames d'épée. Et elle se battait avec ça, c'était vraiment super cool. Et j'étais en mode, waouh, je l'adore, Gazelle, je le prends. C'est soit Gazelle, soit Éclore, parce que Éclore c'était le nom d'une carte dans Urban Rivals, donc c'est un personnage et tout, et j'avais aussi utilisé ce nom-là quand je jouais à ma bimbo, donc il y avait une de mes bimbo qui s'appelait Éclore. Ma bimbo, ce jeu d'anthologie, le jeu de l'époque. Je me souviens que j'avais joué parce que ma cousine y jouait, et j'étais en mode, je suis sûr que je peux jouer et être meilleur que toi, et ce qui était vrai au final, donc voilà. Et ouais, bon bah, Gazelle est née ce soir-là, et ce soir-là, Veronica m'a dit, t'es une Von Leer maintenant. Moi, j'étais en mode, hein? Moi, je venais juste de faire ma performance pour le fun et tout. Je m'amusais à me sortir hyper fraîche et tout. J'arrêtais pas de genre prendre ma wig et genre flip air, etc. C'était genre the shit. Genre, j'étais the most. C'est assez drôle aussi parce que je venais juste de casser avec mon ex de l'époque. La première chose qu'il m'a dit quand il m'a vu en drag et tout, il a dit, je te déteste, mais tu es tellement belle. J'étais là en mode, yes! Yes! Et ouais, bah Veronica me dit, t'es Von Leer maintenant. J'étais en mode, hein, quoi? Bah, pour moi, je me dis, oui, elle a un peu bu, elle a rigolé, etc. Le lendemain matin, 10h, elle m'a vu sur la conversation de groupe des Von Leer. J'étais en mode, oh fuck, en fait, en fait, ça rigolait pas, en fait. Genre, vraiment Von Leer. Et j'avais encore même mes chocottes parce que j'avais vu Veronica, donc je sais que c'était pas n'importe qui dans la scène parisienne. Après, j'ai vu, il y avait d'autres Von Leer, il y avait Karma, il y avait Angora, il y avait Diana. Et c'était en mode, waouh, elles sont vraiment super belles. Et les gens les connaissent et tout, et je suis en mode, waouh, moi, comme ça, je sais pas maquiller, etc. Et ouais, bah après, ça s'est bien passé. Je m'étais maquillé 3 mois après, parce que bon, à ce moment-là, j'avais fait des périodes où je maquille pas. Mais j'étais surtout flemmard, j'avais pas que ça foutre. Et surtout parce qu'à ce moment-là, je portais pas de lentilles. Hein, parce que ma vision est à moins 6. Donc dès que j'enlève mes lunettes, plus de 50 cm, c'est flou. Donc essayer de te maquiller comme ça. Donc j'étais à 2 cm du miroir, c'était chiant. Maintenant, je mets des lentilles, donc ça va mieux. Mais je suis aussi très flemmard, donc je me maquille pas souvent. Quoi. Genre par exemple, là j'ai fait une pause drague pendant tout l'été parce que j'avais la flemme, tout simplement. C'est pas en mode, ouais il fait trop chaud, ouais je me préserve pour la rentrée, je veux maquiller en secret et tout. Non, c'est genre grave la flemme, j'ai pas que ça fout de le faire. En plus il fait chaud, donc la Pride c'est juste exception, après voilà quoi. Ce qui est assez sale, par contre j'ai pas lavé mes pinceaux depuis la Pride. Faudrait que je le fasse, mais ouais c'est pour te dire le niveau de flemmardise que j'ai.
Et du coup, comment t'apprends, comment ça arrive le processus ? Est-ce que c'est grâce à tes sœurs que t'apprends le maquillage ? Ou c'est toi face à ton ordinateur et YouTube ? Comment t'apprends ?
J'apprends facilement et bien, et je suis assez habile de mes mains, dans le sens où à cause des jeux vidéo, du dessin, etc. Enfin, mes mains ont toujours été utiles dans ma vie, j'ai toujours utilisé mes mains. Je m'entraîne pas à côté, donc concrètement, le moment où j'ai un gig, c'est le moment où j'explore de nouvelles choses. Donc c'est à ce moment-là où ça passe, ça casse. Et après, je me maquille presque jamais seul. Donc je suis toujours avec d'autres personnes, donc je pars avec, je dis ah, mais là, il me dit ah, peut-être faire ça et tout, je m'inspire de trucs. Je regarde des tutos, des vidéos et tout. Voilà, j'ai des idées, j'ai des inspirations, donc je tente les techniques. Et c'est comme ça que ça avance. Après, je me souviens, je faisais parfois des entraînements avec Véronica, parce qu'elle était en mode, elle avait marre que je sois aussi flemmard. Donc, elle disait, ouais, bon, bah, passe à la maison avec tes pinceaux et tout, fais des trucs, on va s'entraîner, etc. J'étais en mode, oui, maman. Et ouais, non, mais j'apprends surtout de ce que je regarde autour. C'est un truc qui me plaît bien chez quelqu'un, je le prends, j'essaie de faire que ce soit, de le faire mien, au sens où d'adapter à mon visage, etc. Parce que bon, je peux pas faire. Le même processus, le même maquillage que d'autres personnes parce qu'on n'a pas le même visage, on n'a pas les mêmes choses. Moi, je fais du drag assez fichy, assez féminin, dans le sens où je ne vais pas faire des trucs hyper flashy, hyper définis. Ce serait surtout très drag dans la set voguing, c'est-à-dire beaucoup de passing, quoi. J'essaie juste de m'entraîner sur le tas, concrètement. Là, la prochaine fois que je vais me maquiller, ce sera pour le gig au festival et je vais juste...
Au festival Extimité.
Le 7 septembre.
Le samedi 7 septembre, là, c'était fertile.
Yes.
Ce sera le moment où je vais m'entraîner parce que je ne m'étais pas maquillé. Je dessine des petites idées de make-up et tout, mais bon, je dessine, il y en a plusieurs dans mon carnet, mais après, est-ce que je les regarde quand je me maquille vraiment ? Non. Voilà. La grosse flemmardise.
Et comment tu te sens dans le milieu du drag par rapport aux autres ?
Je me sens bien, mais parfois je me sens comme un imposteur. Enfin, c'est assez foireux ce que je veux dire. Mais c'est un peu en mode, je n'ai pas de réel traumatisme par rapport à d'autres personnes. Je n'ai pas de réel questionnement sur mon genre. Juste, j'adore performer. J'aime bien ça. Je suis, bon à ça. Donc, ouais, voilà, j'en profite, je fais ça. Bah, récemment, je me sentais un peu plus comme un imposteur à cause de Albac Excellence. C'est la soirée que j'ai créée pour célébrer les artistes noirs. Et pourquoi je me sentais comme une fraude un peu ? Parce que je ne m'étais jamais vraiment questionné sur mon identité noire et tout. Ce n'est que récemment, cette dernière année que je me questionne, je regarde les choses. Mais après, vu que je bosse beaucoup, je sais pas, en mode, je vais lire pas mal de livres, etc. C'est lent comme processus, ça prend le temps, mais c'est parce que moi, je fonctionne comme ça. Je suis pas, entre guillemets, hyper woke, etc. Mais c'est de faire de mon mieux, quoi. Et je me sens un peu comme un imposteur parce que d'autres personnes sont plus... par exemple, Bad Velvet ou Shigo, ou voire même ma fille Fasima, ont plus, se questionnent plus ces choses-là, sont plus dedans. Le questionnement de l'identité raciale, etc. Si elle avait créé la soirée, ça aurait été plus légitime, entre guillemets. C'est pour ça que je me sens un peu comme une fraude, parce que... ouais, à la base, je l'avais créé cette soirée suite à... la perf raciste de ma sœur Tatiana Claxon. Je dis que c'est ma sœur maintenant, alors que c'est pas du tout ma sœur, c'est juste une connasse que je n'aime pas.
Est-ce que tu peux revenir sur ce qu'elle a fait comme performance
en... Oui, j'adore raconter cette histoire parce que j'ai encore les vidéos sur mon portable, j'ai encore les screenshots et tout. Je suis quelqu'un qui garde les tickets, les receipts, comme on dit. Tatiana Klaxon de Nice, coucou si tu m'entends. J'espère que tu vas me débloquer un jour d'Instagram pour qu'on puisse catch up et se voir. J'ai hâte que tu viennes sur Paris pour faire une performance. J'ai hâte de descendre sur Nice pour qu'on s'amuse. Voilà quoi. Tatiana avait fait une perf sur Madone. Pour ceux qui n'organisent pas, c'est balayer, nettoyer, astiquer, toujours pimpant. Et en fait, sa performance, déjà, en plus d'être nulle, était raciste parce qu'il y avait des cris dans la performance. Elle avait fait un mix où il y avait un moment des cris d'animaux et aussi il y avait un moment où aussi, elle faisait. Il y avait la voix d'une personne vraiment stéréotypée, du genre la personne antillaise à la réception où, qui fait le ménage, l'accent bien, bien fort et tout. Et c'était chiant à voir, c'était pas bien. J'avais vu cette performance via Instagram et tout, en story. Et là, à ce moment-là, j'étais en mode... what? Qu'est-ce qui se passe? J'étais pas bien. En plus, elle avait une tenue qui disait en pagne, alors que je sais que c'est du putain de wax, ce qui est carrément différent. On peut pas m'avoir sur ça. Et des tresses. Je suis en mode... bonjour. Et donc, j'avais vu cette perf, j'étais en mode... est-ce que c'est moi qui suis trop sensible ou est-ce que c'est vraiment... complètement raciste, pour rester complètement raciste, mais après je me suis dit, parfois, parce que je peux trop surréagir par moment, être un peu trop drama, donc j'ai envoyé la vidéo à plusieurs potes, et ils étaient en mode, c'est n'importe quoi, il faut la brûler, enfin, pas il faut la brûler, mais c'était en mode, c'est putain de raciste, quoi, enfin, c'est pas cool, et donc là, je suis allé voir Tatiana en message privé, on fait un long pavé parce que je suis adepte du on va parler d'abord pour essayer de régler la chose et essayer de voir s'il n'y a pas une solution. Puis après, si la discussion ne parle pas, bah, j'enlève mes boucles d'oreilles, on se bat quoi. D'abord, on parle. Donc j'ai envoyé un message pour dire oui, salut, enfin, je ne connais pas et je ne veux pas être trop insolent, etc. Mais bah, ta performance, je la trouve quand même un peu raciste. Enfin, c'est pas très cool ce qui a été fait et tout. Enfin. Et puis elle a répondu en mode ouais, non, mais non, c'est pas raciste et tout. Fast forward, enfin, pour accélérer la chose, oui, on peut plus rien dire et tout, on peut plus rigoler et tout, non, c'est pas assez, ça, j'étais en mode. Ok, bitch. J'étais quand même énervé, puisqu'il fallait que j'extérieure ça, donc je suis allé sur Twitter et j'ai fait plusieurs tweets en parlant de ça, mais j'ai jamais divulgué son nom, j'ai dit tous les faits, jamais divulgué son nom, jamais divulgué la ville et tout, ça, j'étais un peu en mode. Tu as fait ça, c'est pas cool et tout. J'ai pas mis de vidéo, les screenshots étaient masqués et tout, c'était juste les faits. Pas de nom, pas de vidéo et tout. Mais Bad Velvet était pas du même avis. Bad Velvet était en mode Tatiana Klaxon, la vidéo, les screenshots. Sachant que moi, il y avait peut-être quelques personnes qui ont vu genre. Gros Max, ça pourrait faire 10 retweets. Lui, c'était genre une centaine de retweets et j'étais en mode ouais, blablabla, blablabla. J'étais en mode wouh! Et voilà, la soirée était créée à cause de ça. Et plus tard, Belle Velvet est venue me voir. Ouais, t'as pas. Je connais pas les gens qui peuvent booker et tout. Moi, je dis ah merde, fallait me dire plus tôt parce que j'avais une pote qui cherchait, etc. et tout pour des baby drag et tout. Et puis après, je me suis dit vas-y, tiens. Viens, vas-y, viens, on fait notre soirée et tout, genre que les blacks et tout, on fait ça et tout. Après, elle était grave chou, tout, c'est le soir à 22h et tout. Après, elle était, ouais, grave chou, tout, vas-y, on recontacte, on tente de faire un truc comme ça et tout, tranquille et tout. Le lendemain à 10h, j'ai contacté plusieurs drag queens noires, c'est-à-dire, il y avait Botox, Bad Velvet, moi, Kanye Megami, et on a fait ma fille Fassimba. Et j'ai fait une conversation le lendemain à 10h sur Facebook en disant, voici mon idée, est-ce que vous êtes partant? Et voilà, on fait ça, ils étaient tous en mode ouais, chaud, vas-y, on fait direct ou blablabla, bla, direct. Après, ça s'est créé comme ça. Would you take the pain that came with all the parts you wanna claim for you? You want my thighs, you want my stride, but not this melanin. You want my hair, but you don't care for this complexion. Cold bread fed, sweet tea sipping, Nubian queen with the skin that glistens. I'm a black woman. Et lors du coup de la Black Excellence, est-ce qu'il y avait un thème précis ou qu'est-ce qui est ressorti souvent des perfs? J'ai pas pu y assister du coup. Ce qui est ressorti des perfs de mon point de vue, enfin de ce que les perfs ressortaient ou de ce que les gens ont ressenti.
Les deux, si t'as les deux, enfin les deux avis.
J'ai les deux avis, ouais. Bah, il y avait pas de thème la première fois. C'était surtout, c'est censé déjà être en one shot. Parce que j'étais pas préparé à faire genre chaque mois ou etc. C'était censé être en one shot. On vient, on est des artistes noirs qui font des chansons d'artistes noirs pour montrer qu'on est là et boum. Bah déjà je paniquais. Genre je peux paniquer bêtement pour rien. Mais ce moment-là en fait, la veille de Black Excellence, j'ai pleuré parce que je paniquais. Comme ça j'avais appelé mon copain à ce moment-là pour dire je panique, qu'est-ce que je dois faire. Pendant tout le processus, toute la préparation, j'étais en mode ouais, ça va et tout. C'est moi qui disais aux filles, oui, bon, parce qu'il y avait certaines qui faisaient leur première performance. Bah, Shigo qui est venu, qui m'avait contacté sur Instagram parce qu'elle avait vu le truc, elle était très intéressée et tout. Voilà, donc j'ai accepté, viens et tout, tranquille. Enfin, elle était là en mode, Shigo était en mode, oui, non, mais je suis métisse, donc je sais pas si ça marche et tout. Je dis, bitch, t'es métisse, mais t'es quand même noir, enfin, viens. Donc elle est venue, voilà, c'était sa première performance de Bad Velvet, première performance de ma fille Fassimba. Donc j'étais en mode, je vous donnais des petites astuces et tout, des petits trucs, parce que Veronica m'avait appris à performer et tout. Et donc j'étais en mode coaching maman poule, GZ de A à Z et tout. J'avais acheté la wig de Bad Velvet pour elle, j'avais passé une wig à Fassimba, j'avais aidé et tout, on était parti faire les choses et tout, etc. J'ai prêté mon make-up et tout, genre même, voilà, j'étais grosse maman poule et tout. J'avais absorbé toute leur frustration, toute leur peur pour moi et tout, et moi ça allait. Jusqu'à ce que la veille, en fait, le dimanche, je bossais au resto, je bossais le matin, le soir, je bossais pas, mais j'avais préparé la salle, bien nettoyée, bien fait tout, pour que ce soit pimpant et tout. Que le lendemain matin, j'ai fait test son et tout ça, c'était nickel, ça allait bien. Je rentre et tout, il est tard, je retourne au quotidien et tout. Je me balade sur Twitter, je vois mon copain qui a retweeté une photographe qui fait des photos drag et tout, qui a retweeté, qui disait oui, venez à Black Excellence demain, c'est The Place to Be, venez et tout. Et là, j'étais en mode, oh, c'est cute. Enfin, déjà, j'étais en mode, what, mon copain qui retweet ça alors qu'il n'est pas de milieu drag, il connaît que par moi et tout, et il ne suit pas vraiment des drag queens et tout. Et là, je vois la personne qui avait fait le post de base. Et je vois, ça se tape des 200 retweets et tout. J'étais en mode, oh fuck, oh damn. Parce que moi, j'étais en mode, oui, je fais mon petit gig dans mon resto et tout, 50 personnes, gros max, je suis genre aux anges. Et là, je vois, il y a 200 retweets et tout, j'étais en mode, oh seigneur, je panique, boum. Toute la frustration, tout m'attaquait une fois, et là, je commençais à pleurer, je paniquais et tout. Après, le lendemain, ça allait, mais j'avais les chocottes, quoi. J'étais pas bien. Après, c'est Véronica m'a dit, ça s'est ressorti sur mes performances, parce que je paniquais. J'ai eu beaucoup de feedback positif sur ça, les gens étaient en mode, wow, c'est trop bien, blablabla, c'était une innovation et tout. Ils étaient en mode, ouais, et tout. C'était en mode, ouais, à dans un mois. Et j'étais en mode, hein? Et ce qui est assez drôle, c'est que il y avait une fille avec qui j'avais parlé. Elle m'a dit que ce qui était assez fun, parce que c'était vraiment... Il y avait beaucoup de danse par rapport aux autres show drag. J'étais en mode, je sais pas, ouais, nous, on aime bien danser, donc on danse, quoi. Après, si... Nous sommes des dancing queens, mais enfin voilà quoi, on est là. Et ouais, non, mais les gens ont pas mal apprécié, beaucoup de bons feedback, ce que j'avais recommencé. Et ben ouais, puisque la première fois, je m'attendais genre peut-être à 50 maximum, mais j'avais emmené plus d'une centaine quoi. Genre, je me souviens avec le petit truc de compteur, on avait compté 136, ouais. Et voilà. Et fun fact, il y avait les queens, la monnaie alternative pour tips et les drag queens. J'en avais imprimé 200 avec Kenza Fragola, 200 et quelques, et j'avais mis Catherine Pinot Noir entre guillemets à la caisse parce que ce serait ma caution blanche, parce que ça c'est fun d'avoir une caution blanche d'une soirée noire. Catherine me vient me voir avant que la soirée commence, on va dire à 20h les gens pouvaient rentrer, à 20h40 le show allait débuter, et à 20h30 elle vient me dire, voir et tout, ouais, tu veux me passer les autres queens? Ouais, j'étais en mode, hein? Je t'ai tout passé, il y en a 200 et quelques. Elle a dit, ah ben il n'y en a plus. Je t'en mode, hein? donc tu vas me dire, là, 200 euros viennent d'être donnés dans la caisse pour nous et tout. Je dis, ah, ah bah, bah, ok. Irréel quoi. Et après, pendant le show, c'était ce que j'avais jamais, mais genre jamais vu ça dans un show de drague en France, à Paris. J'avais jamais vu des gens balancer des billets de 20 euros. Il y avait ma fille qui avait performé tout. À la fin de sa performance, tu vois, les gens balancent les queens. Ouais, ouais, c'est bien et tout. Et là, je vois un billet de 20 euros qui vole. Je fais et. Un billet de 20 euros, un billet de 5 euros qui vole. Je fais et. On était 6. On s'était chacune fait minimum 60 euros de tips. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais 60 euros minimum, c'est beaucoup. Et ça, juste en tips, quoi. Et enfin 60 euros minimum parce qu'on avait on avait genre 80, 100 et tout, enfin c'était monté, genre j'étais assez surpris et voilà. Plus un peu d'argent que j'aurais passé chacune parce que voilà, j'aurais dit oui, bah, je vous passe un peu parce que voilà, enfin au moins il y a un petit peu et ouais, bah la prochaine édition ce sera, et non, et pour te répondre, je fais ma pub après.
Merci.
Tu peux.
La première, il n'y avait pas de thème parce que c'est juste venir comme ça. Après la deuxième, j'avais mis, c'était le thème du racisme. La troisième, c'était mon anniversaire, donc le sous-thème, c'était des chansons de rap. Là pour la prochaine, le sous-thème, c'est la danse, quoi. Mais après, je mets un sous-thème aux filles pour histoire qu'elles puissent, s'ils ne savent pas quoi faire, et qu'elles se refaire à ça. Donc la prochaine, on va danser. Moi, je vais danser. Je vais faire, entre guillemets, mon comeback. Gazelle 2.0, comment dire. Enfin, même si ce sera juste Gazelle qui continue comme ça.
Est-ce que tu veux faire ta pub pour la future Black Excellence?
Alors, la prochaine Black Excellence se déroulera comme toujours aux Flammes et de Lombard. 62 rue des Lombards à Châtelet, sortie 10, place Sainte-Opportune, ou sortie 1, rue de Navarre, en tout genre. Point d'ancrage pour que les gens puissent savoir où c'est devant le labo, c'est sur la rue parallèle au Banana Café. Les portes se s'ouvrent à 20h pour venir commencer à vibrer, parler et tout. C'est entrée gratuite, mais si tu veux donner de l'argent pour nous, bah, on accepte volontiers. J'ai une machine à carte bleue au travail, j'accepte les chèques, les virements, etc. Je voudrais dire aussi que j'accepte les paiements en nature, mais je serai en drague, donc je ne vais pas faire de bêtises parce que il faudrait que j'enlève tout mon maquillage, mes lentilles, etc. Mais tu peux venir, ce sera fun. Tu peux aussi venir payer, prendre des queens. La boisson n'est pas chère, la consommation, puisque les cocktails sont à 5 euros. Et la bière est à partir de 3,50 euros. Exclusivité pour tout le monde. Ici, vous serez accompagné dans cette soirée de moi-même, Gazelle Von Leer, la seule et unique. Qui va performer aussi, il y aura Bad Velvet. Il y aura aussi Sambre Vanité, qui fera sa première performance drag. Et aussi, nous accueillerons Stevia Fenty pour la petite scène ouverte que je fais maintenant, qui fera cette deuxième performance. Et j'aime bien cette personne parce que son nom, j'aime bien parce que c'est Fenty, voilà. Ma tante Rihanna et moi, on adore. Et voilà. Donc, venez le lundi 9 septembre aux Flammes des Lombards à partir de 20h pour une soirée exceptionnelle qui va marquer mon retour dans la scène drag. Et aussi, il y aura une petite surprise à la fin de la soirée, puisque j'ai un autre projet drag qui m'excite beaucoup et je voudrais vous en parler. Et voilà, voilà. Ouais. Et Gazelle va venir sur Instagram. Merci, bye.
Toujours, ne jamais oublier l'Instagram.
Toujours, toujours. Pas sur Twitter, parce que sur Twitter, j'ai plein de conneries.
Mais sur, c'est Instagram. La face obscure.
Et d'ailleurs, j'avais une question. C'est qui Gazelle?
Gazelle, c'est Pierre. C'est Gazelle, c'est moi. Avant, je pouvais dire que Gazelle, c'est la version plus extravertie de moi. Mais plus avant, c'est... enfin, j'ai toujours été gênant et extraverti aussi avec les personnes que j'apprécie bien. Mais plus on avance, et plus... même si je te connais pas, je vais te parler de conneries. Parce que j'ai grandi et je fais ça maintenant. Surtout parce que avant en soirée, Gazelle, c'était à ce moment-là où je pouvais aller voir les gens, dire « Ah, oh, t'es mignon, toi, tu me passes un verre ?» Et les gens me donnaient et tout. Par exemple, à la Pride, je marchais tranquillement, j'étais en drague et tout. Et dès que je voyais un garçon mignon passer, j'étais en mode « Oh, salut, toi, ça va ?» Vraiment, ma pick-up line, c'était « Ah, il fait chaud, t'as pas chaud ?»« Ah, oh, moi, j'ai tellement chaud, franchement, j'aurais moins chaud si tu me faisais un bisou, quoi. » Est-ce que ça marchait ? Oui. Genre, j'ai embrassé tellement de garçons ce jour-là. Et quand les garçons passaient avec des verres et tout, « Ah, c'est pour moi ?» Ils disaient « Ouais. » Gazelle, c'était... au début, c'était l'entité qui permettait d'être plus extraverti en soirée. Mais maintenant que je connais, parce que je ne connais pas les gens, que je suis en Pierre, en Gazelle, je viens et je te parle. Si je veux t'embrasser, je veux dire « Oui, t'es mignon, je vais t'embrasser et on s'embrasse. » Ça marche souvent, en fait. C'est assez con. Mais on va dire « Confidence, c'est sexy. » Mais dans les soirées, je venais, le personnage que je ne connais pas depuis bien longtemps, on parlait bien, on vibait bien, bah, je lui disais bah, « Tu me donnes envie de t'embrasser, donc est-ce que tu as envie ?» Il dit « Ouais, bon, on s'embrasse, voilà, c'est fini. » Tout simplement. Il n'y a pas de magie ou autre, c'est... voilà. Mais ouais, Pierre et Gazelle, ce sont les mêmes personnes maintenant. Ils ont...
fusionné.
Fusionné, ouais.
Est-ce que le drag t'a déjà posé problème ou a été un avantage dans tes relations sentimentales et sexuelles ?
Non, parce que je suis assez franc, enfin assez direct, et j'aime la communication dans les relations. Donc, les personnes vont le savoir. La personne soit va avec ou soit bah, part, tout simplement, parce que je ne vais pas me bloquer pour un garçon, pour une relation, en mode, ce que je disais parfois aux gens, c'est « je vous aime bien, mais je me préfère ». S'il y a vraiment un problème et que tu n'es pas utile dans ma vie, en mode tu es toxique pour ma vie, je vais te couper dans ma vie très très vite. En mode tu penses que je ne peux pas t'ignorer, t'enlever de ma vie comme ça, watch me, c'est fini. Tu n'es plus dedans. Pourquoi ? Parce que si tu seras trop toxique et ça, je ne serai pas bien. Et quand je ne suis pas bien, il faut que je fasse quelque chose qui fasse que je suis bien. Donc si après moult discussions, ça ne s'arrange pas, bye. Tout simplement, bye. C'est donnant-donnant, en fait, des relations, chacun parle. Moi, j'ai changé de boulot, je travaillais beaucoup, etc. Voilà. Parfois, je faisais du 8h à 21h parce que j'étais au travail. Et après, je devais rester pour faire des trucs. Quand j'étais à la fac, j'avais mes cours en semaine. J'avais mon asso étudiante dans la fac parce que j'étais président d'une asso étudiante. Puis après, mon asso étudiante LGBT en dehors. J'avais aussi une asso de jeux vidéo où je suis. Et après, côté, il y avait le boulot le week-end. Donc, j'avais pas mal de choses à faire. Donc, les personnes qui étaient là en mode « Ah, mais tu ne parles pas et tout, tu peux voir. » Je dis « Bah, nique ta mère aussi. » Enfin, je suis occupé, je fais plein de choses. Enfin, pas nique ta mère, désolé. Nique ton père et niquez-vous, quoi. Niquez-vous. Enfin, vous me cassez les couilles. Non, les personnes, je suis assez franc, donc venez avec moi dans mon aventure. Enfin, on avance ensemble. Si t'aimes pas trop, bah, tu peux ne pas aimer, mais du moment que tu respectes, etc., ça va. Mais après, si les gens n'aiment pas que je fasse du drag, bah, ils s'aiment pas eux-mêmes, hein, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire.
Ok.
Ok. On a la punchline.
Mais ça va te donner des avantages aussi. Les avantages, c'est que bah, ça me donne des boissons, des consommations en soirée. Ça donne aussi une autre visibilité, en fait. Je peux faire passer des messages plus simplement et plus efficacement grâce au drag, ce qui est assez cool parce que c'est un moyen d'expression et parce que les gens voient et je peux dire des choses, quoi, ce qui est assez bien. C'est pour ça que je fais ça aussi, parce que j'aime bien performer, j'aime bien voir les gens, j'aime bien m'adresser aux gens. Puisque j'ai fait une formation pour être prof, donc j'aime bien vouloir apprendre des choses. J'aime pas l'école, mais j'aime bien apprendre. J'aime bien faire apprendre aux gens. Et tout ça, c'est un peu, ça va un peu ensemble, quoi. Le drag permet aussi d'avoir des plateformes et pouvoir dire des choses. Bah, par exemple, le drag m'a permis de pouvoir venir ici enregistrer ce podcast avec vous pour pouvoir parler de mon expérience, si jamais des gens... peuvent avoir des similitudes, des points communs, pour histoire de voir enfin, qu'ils ne sont pas seuls, quoi. Ouais, ça ouvre pas mal de choses dans la vie, ça permet de faire de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, et c'est vraiment une bonne chose dans ma vie, vraiment, je ne regrette absolument pas.
Donc là, tu viens de dire à peu près en quoi le drag était utile pour toi, et en quoi est-ce que tu penses que le drag est utile socialement pour les autres ?
Le drag est utile socialement parce que... enfin, déjà, le drag est utile socialement, point. Puis, le drag est utile socialement parce que il permet de réfléchir. Enfin, c'est le drag, c'est de l'art. Donc, l'art a toujours permis de pouvoir s'exprimer, pouvoir dire des choses et pouvoir faire réfléchir les gens. L'art a toujours été un puissant moyen de pouvoir discuter, de pouvoir critiquer. Ça permet de défier le genre, les codes, les habits et tout. Tu peux avoir une drag à barbe, tu peux être une drag queen qui est une femme. Il y a des drag kings aussi qui existent. Et voilà quoi, tu peux faire ce que tu veux parce que tu as envie de faire ce que tu veux. Et si les gens ils aiment pas, bah s'ils n'aiment pas, ils ne s'aiment pas. Et tant pis pour eux. Et voilà, le drag n'est pas là pour forcément plaire, c'est pour questionner. On va voir par exemple Clémence Thouet avec de la barbe qui fait des trucs très cool. On va voir Madame de Grognas qui est ronde, Véronica qui est ronde, mais elles ont le droit d'être rondes, quoi. Morphine Blaze qui est une femme et qui fait du drag, bah elle a le droit d'être une femme et de faire du drag. Enfin, pourquoi elle n'aurait pas le droit ? Enfin, c'est de l'art, elle a le droit. En plus, elle est bien meilleure que la plupart des imbéciles qui se moquent d'elle ou qui sont pas contents qu'elle fasse du drag, donc ouais. Tu peux être noir et faire du drag, tu peux être petit, tu peux être grand, tu peux être même hétéro et faire du drag, tu peux être bi-pan, tu peux faire ce que tu veux en fait. Tu peux vouloir t'exprimer en faisant du drag, en faisant du club kid, en faisant juste un peu de eyeliner quand tu sors. Enfin, tu fais ce que tu veux parce que tu as le droit. personne va venir et te dire non, t'as pas le droit de faire ça. La seule chose qu'on va dire, t'as pas le droit de faire ça, c'est t'as pas le droit d'être raciste et d'être mauvais avec les gens. Et parce que nous, on te traitera pas comme ça, et parce qu'on est quand même dans une société où on est quand même assez marginalisé, pour ne pas dire beaucoup. On est encore parfois agressé. Donc ouais, c'est pas joli joli tous les jours. Donc fais pas chier en disant t'as pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, quoi. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Et si tu n'es pas content, bah tu peux regarder ailleurs, tu peux partir. Enfin, on s'en fout, tout simplement.
J'avais une question par rapport au fait que certaines personnes qui critiquent le fait que ce soit qu'il y ait des femmes qui fassent du drag. Tu penses que c'est dû à quoi ? C'est quoi cette... Elle vient d'où cette critique, en fait ?
C'est surtout parce que des gens ont une mauvaise définition du drag. Et ont, d'une, une mauvaise définition, et de deux, ont une représentation... une représentation ciblée. Généralement, c'est plutôt Drag Race, où ils ont juste vu, en fait, la plupart des drags qu'ils ont vus, c'était soit des... Enfin, c'était que des hommes, d'une. Et c'est par exemple des cabarets ou des shows de transformistes. Ça fait que donc c'était vraiment des hommes qui doivent faire l'illusion d'une femme, quoi. Donc, et aussi mauvaise définition, parce que certains disent oh, drag, quand ils vont rechercher vite fait sur Google, ils vont dire ah non, mais ça vient de l'époque shakespearienne, etc. Ou drag, c'est dress as a girl, etc. Sauf que enfin, non, enfin. À l'époque, la définition, c'était ça, parce que c'était... déjà, parce qu'il n'y avait pas de femmes sur scène, tout simplement, d'une. C'était pareil, et ça, on parle avec Shakespeare et tout, sauf qu'à l'époque aussi de l'Antiquité grecque, il n'y avait aussi pas de femmes sur scène. Les hommes faisaient le rôle des femmes, prenaient des masques, etc. Tout en fait. Leur mauvaise définition vient de là. Ils pensent que c'est que les hommes qui doivent se maquiller pour donner l'illusion d'une femme, alors que non, en fait, c'est n'importe qui, n'importe quel individu qui va se maquiller pour donner l'illusion d'une femme, d'un monstre, d'une créature, de quelque chose de non défini. Tu peux être une succube, tu peux être un alien, tu peux être une femme, tu peux être ce que tu veux, enfin tu porterais ce que tu veux, enfin parce que tu as ton personnage et ton personnage fait ça. Avec la Black Excellence, mon parti pris c'est de montrer des dragues noires, d'autres c'est juste de la comédie, etc. La Big Bertha, quand elle fait la Big Bertha's Club, c'était... c'était une ambiance cabaret, et c'est avec des effeuilleuses, des performances, etc., de la danse. Enfin, c'était son parti pris, donc elle fait son show comme elle l'entend. Donc après, le succès vient derrière parce que les personnes qui sont dans le show sont bons, la recette est bonne, la communication est bonne, etc. Donc voilà, c'est bon, mais c'est pas en soi la faute de RuPaul que tout le monde pense que le drag c'est comme ça. Non, c'est la faute des gens qui sont cons et qui essaient pas de voir qu'il y a d'autres choses. C'est comme ceux qui vont dire, oui, non, mais qui aime le drag, mais qui parle que des drags de RuPaul. Bah, c'est eux qui sont cons, parce que y a aussi pas mal de drags qu'une locale. Et c'est toi qui... Si t'aimes le drag, tu aimes l'art, l'expression. Voilà, si tu aimes le drag, tu aimes aussi les drags qu'une locale, parce que tu vois qu'il y a des choses différentes, tu vois qu'il y a des gens tout aussi fichés que les gens dans RuPaul. Tu peux faire un test simple avec des personnes, ils disent, ils adorent le drag, tu dis, oui... c'est au moins 5-10 drag queens locales de ta ville ou de France, autre que dans RuPaul's Drag Race. Et là, tu vas comprendre que certains, en fait, ne peuvent pas nommer des gens parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas essayé de comprendre, tout simplement. Ils vont juste dire, oui, on est moins bien fait et tout. Bah ouais, parce que là, en fait, dans RuPaul et tout, la plupart font ça depuis plusieurs années. Et aussi après aux États-Unis, donc tu vas prendre un crédit bêtement, tu vas tourner tes bêtements, donc tu peux avoir tu peux payer des habits à des designers et tout, des robes qui coûtent super cher. En France, avoir un crédit, c'est beaucoup plus difficile et on évite généralement, donc tu struggles et tu te payes les choses quand tu peux, etc., quoi. L'outfit que j'ai porté, que vous avez vu, ou que je vais porter au Festival Eximité le 7 septembre, j'ai payé 250€ parce que c'est un truc fait sur mesure. Parce qu'à ce moment-là, j'étais tombé amoureux de cette tenue et j'en avais envie. Et je me suis dit, j'ai les moyens, je le fais. Mais c'est pas tout le monde qui peut. Moi, je suis directeur général d'un restaurant.
Et surtout ce que tu dis, la portée sociale, elle est tout aussi importante, quoi. Et c'est ce qui devrait compter, normalement.
C'est ce que j'ai compté, c'est juste, bah, tu viens, tu enjoy regarder un show drag. Si tu arrives à avoir des. Tu arrives à questionner des choses parce que la performance, ça fait questionner des choses, tant mieux. Mais tu vas pas venir et casser du sucre sur des personnes qui ont investi leur temps, leur argent sur quelque chose qu'ils apprécient et que toi, tu devrais, entre guillemets, apprécier. Enfin, la forme drag, tu apprécies. Après, que tu n'aimes pas forcément la performance, c'est pas grave. Mais que tu apprécies la forme et que tu respectes, surtout. C'est le respect.
Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois ?
Quand je me regarde dans le miroir, je vois un beau gosse. Je m'aime bien, je m'aime beaucoup, je m'apprécie beaucoup, tout simplement. Et si je pouvais me cloner et coucher avec moi, je le ferais carrément. Beaucoup de personnes devraient avoir un Pierre dans sa vie, parce que je vois quelqu'un de timide, mais qui peut être bien extraverti, qui est gentil, profondément gentil, même si peut être un vrai connard de temps à autre, mais qui est un gémeau. Donc les personnes que j'aime bien, je les adore, je ferais tout pour elles. Mais si je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Tout simplement. Et je suis assez franc. Ouais, je vois quelqu'un que j'aime bien, qui est très bien foutu aussi, qui a des fesses magnifiques. Quelqu'un de très beau et que j'aime beaucoup. Qui a de jolis tatouages aussi. Et voilà. Quand je me regarde dans le miroir, je vois cette personne que j'aime.
Et la question de la fin rituelle, est-ce que tu t'es déjà senti majoritaire, Pierre ?
Quand vous me demandez ça, pour moi, c'est est-ce que je m'étais déjà senti bien à ma place quelque part ? Et oui, plusieurs fois. Quand j'avais créé la Black Excellence, je voulais un peu recréer le mood que j'ai eu quand j'étais allé dans des balls de voguing pour la première fois. C'est-à-dire plein de personnes noires, super belles, super intéressantes, super talentueux. Un peu comme si ça m'ouvrait de nouvelles portes, j'étais quelque part que je ne connaissais pas et qui était génial. Là oui, ça vient de me revenir comme une révélation parce que j'étais parti cet été... en juillet à Afropunk, et concrètement, c'était la révélation, quoi, puisque j'avais déjà entendu parler d'Afropunk, j'étais jamais allé, c'était la première fois que j'allais, première fois que j'allais à un festival, et de deux, première fois que j'allais à Afropunk, et j'avais peur, en fait, de me pas sentir à ma place, et franchement, c'était une telle claque, c'était tellement beau, ça m'a tellement inspiré, j'étais tellement bien, puisque il y avait plein, c'était rempli de personnes noires, super belles, avec de beaux make-up, des couleurs de cheveux différentes, des coiffures différentes super belles qui m'inspirent pas mal pour pouvoir faire pour des trucs pour le drag et tout. C'était vraiment, mais vraiment très beau. Je m'étais senti le sentiment le plus proche que j'ai, qui est c'est le coma après avoir très très bien mangé. C'est là, j'étais dans cette espèce d'euphorie à ce moment-là. La Black Excellence veut vouloir créer ça pour que les personnes qui performent, se sentent acceptées, se sentent bien. Les personnes noires qui viennent voir le show se sentent bien aussi et se disent que ça, ce genre de lieux peuvent exister et qu'on peut être bien, qu'on est visible, on est là, quoi. Et c'était super touchant parce que c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que c'est pas juste moi qui viens et qui m'amuse, qui essaie de faire les choses. C'est vraiment... j'ai vraiment touché les gens et c'est vraiment... là j'ai les larmes aux yeux en pensant à ça, mais c'est vraiment beau parce que c'est pas en mode je vais juste faire un truc comme ça. Il y a vraiment des gens qui sont vraiment touchés, à qui ça dit quelque chose, et je commence à de plus en plus prendre conscience du fait que c'est important, c'est utile. Et donc à ce moment là je me sens majoritaire, je me sens bien, et j'espère pouvoir continuer à me sentir et créer ce genre d'espace le plus souvent possible.
Merci beaucoup.
Merci.
Ouh, ok.
Hep. T'as noté dans ton agenda le 7 septembre 2019, le festival Extimité, à la Cité Fertile ? On t'attend, vas-y, écris. On a hâte de t'y voir et on est toujours disponible sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, fais tourner à la famille, les amis, les adelphes. On t'attend, on t'adore et à très vite.
C'était Extimité, le récit de la conscientisation et de la déconstruction de personnes minorisées.
One-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.